Alors, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et nous sommes toujours à la Vegan Place sur le boulevard Orteloup à Tours. Alors, pour cette troisième table ronde de la journée, nous allons vous proposer de partir à la découverte de l'histoire locale autour d'une expérience de communauté végétalienne fondée près d'ici à Luynes au début du XXe siècle par un militant anarchiste nommé Louis Rimbaud. L'histoire de Terre Libérée, nom de cette communauté, est l'occasion d'aborder de manière plus large l'histoire des liens entre l'anarchisme et le végétalisme, manière aussi de montrer que le végétalisme et la cause animale ont une histoire faite de liens avec des mouvements sociaux et des luttes sociales. Pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Anne Steiner et Thierry Flamand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Anne Steiner, vous êtes sociologue, vous avez été maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Nanterre et vous avez notamment travaillé sur le mouvement individuel anarchiste.
Individualiste
anarchiste, merci de me corriger. On peut notamment lire votre livre « Les En Dehors, anarchistes, individualistes et illégalistes à la belle époque » que vous avez publié aux éditions L'Échappée.
Oui.
Pas d'erreur.
Pas d'erreur.
Thierry Flamand, vous êtes membre de l'association L'Autre Terre Libérée, l'association qui œuvre à la mémoire de l'expérience communautaire de Louis Rimbaud à Luynes et qui a conçu l'exposition visible tout au long de la Vegan Place et que nous vous invitons à aller voir. Et c'est tout au bout côté mairie.
Tout au bout côté mairie, exactement.
Eh bien, je vous laisse la parole.
Merci.
Alors, je vais commencer par poser les termes généraux donc, de ce débat. D'abord, il faut rappeler, quand on parle d'anarchisme, qu'à la fin du 19e siècle, depuis le dernier tiers du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est pas du tout un courant minoritaire, mais c'est un courant absolument majoritaire dans le mouvement ouvrier, en France, en Italie, en Espagne et en Amérique latine. Donc, ils sont majoritaires, y compris dans les syndicats. La CGT de cette époque est anarchiste. On a du mal à se représenter aujourd'hui. Alors, au sein de l'anarchisme, évidemment, il y a plusieurs courants. Ce qui les distingue d'abord des socialistes, leur idéal à atteindre est le même, une société sans exploitation, sans domination, et donc sans classe sociale, et pour pas qu'il y ait de classe sociale, pas de propriété privée. Mais contrairement aux socialistes, ils veulent la destruction immédiate de l'État et pas s'emparer de l'appareil d'État. Mais même à l'intérieur des anarchistes, il y a des courants différents. Un courant qui croit davantage à la révolution, à l'insurrection. Un courant syndicaliste, vraiment, qui pense que tout se passera au moyen de la grève générale. C'est-à-dire la grève générale permettra au prolétariat de prendre possession des moyens de production, d'assurer la distribution des biens, etc. Et puis, il y a un troisième courant, le courant anarchiste individualiste, qui est plus minoritaire, mais qui n'est pas insignifiant pour autant, qui possède une presse, qui a quand même une véritable audience. C'est à ce dernier courant qu'appartient d'ailleurs Louis Rimbaud, mais qui a aussi été syndicaliste à certains moments de sa vie, parce que ça se promène quand même entre ces mouvances. Alors, ce qui distingue les individualistes, un terme qui peut surprendre aujourd'hui parce qu'on l'associe à l'égoïsme, etc., pas du tout. Individualistes au sens où pour eux, tout part de l'individu. C'est-à-dire, ils sont convaincus d'abord qu'une révolution, une grève générale réussie et peu probable, étant donné l'état de résignation, le peu de conscientisation des ouvriers de cette époque, et d'autre part, la force de répression, la commune n'est pas loin avec ses dizaines de milliers de cadavres. Donc, ils pensent que tout doit déjà partir de l'individu, que l'homme nouveau ne surgira pas après la révolution, mais que c'est l'inverse. C'est parce qu'on aura créé des hommes nouveaux que la société pourra changer. Et du coup, ils vont travailler à se transformer eux-mêmes, et à transformer la vie pour eux et autour d'eux. Donc il n'y a pas de révolution sans évolution, et tout commence par le travail sur soi-même, car disent-ils aussi, l'aliénation et la domination, ce n'est pas seulement la figure du policier, c'est le policier qu'on a dans la tête. Donc ce qu'ils appellent les tyrans intérieurs, c'est-à-dire les préjugés, l'obéissance aux coutumes, etc. Ça, il faut se l'extirper. Et ils veulent absolument réaliser leur potentiel humain entier. Alors ce sont des garçons et des filles jeunes, très jeunes, ils ont entre 20 et 25 ans la plupart, de ceux qui se reconnaissent dans ce courant, et tous enfants de paysans pauvres ou d'ouvriers, c'est-à-dire qu'ils ont tous quitté l'école à 12 ans, c'était la norme à l'époque, et leur avenir, leur présent et leur avenir, c'est d'être astreints à des tâches malpropres, répétitives, qui ne font pas sens, et c'est 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et comment réaliser son potentiel humain avec de telles conditions de vie. Donc ils vont d'abord avoir comme but, pour s'émanciper individuellement, d'échapper au salariat, tel que le salariat se présente à leur époque, et pour des gens qui, comme eux, n'ont pas du tout de capital scolaire. Et pour échapper à cette condition de salarié, partiellement ou totalement, il faut examiner ses besoins et les réduire. Aller vers plus de frugalité, plus de sobriété. Alors c'est le moment où le prolétariat, disons dans les toutes dernières années du 19e siècle, est toujours très pauvre, c'est vrai, mais commence à accéder à un petit niveau de vie supérieur. Tiens, peut se permettre un peu de superflu. L'accès à l'alcool, au tabac, aux vêtements sophistiqués des bourgeois qu'on achète et qu'on met que le dimanche ou pour quelques cérémonies. Et eux disent, mais balançons tout ça. L'accès à la viande aussi, qui est relativement neuf. Hein. Et ils se disent, de quoi a-t-on besoin ? Examinons. Ils remettent complètement en cause le vêtement en disant, il faut pas essayer d'imiter le bourgeois. C'est pas un bien en soi d'être habillé comme eux, mais inventer des vêtements qui nous correspondent. Alors des vêtements où le corps est très peu contraint, très, très ample, qu'on peut fabriquer soi-même. Les vêtements ouvriers par excellence, la blouse que portent beaucoup de corporations, très amples, les grosses ceintures en soie, les pantalons larges, des sandales plutôt que des chaussures. Et pour les femmes, balançons les corsets, les chapeaux, enfin tout ce qui est coûteux et en fait même mauvais pour le corps. Et ce travail, ils vont le faire bien sûr au niveau du régime alimentaire, c'est-à-dire cette destruction des préjugés de leur temps, ils le font sur tous les aspects de la vie et ils vont le faire aussi sur l'alimentation. Donc, ils vont se dire qu'est-ce qui est vraiment indispensable dans l'alimentation pour bien se développer et avoir aussi du plaisir à manger, etc. Et ils vont éliminer le tabac, le thé, le café, le sucre, tout ça c'est coûteux et pas nécessaire, et aussi la viande. Et pour ça, ils doivent détruire les préjugés assez forts dans tous les milieux, mais particulièrement dans les milieux populaires, qui associent la viande et l'alcool à la force, à la virilité. À l'époque, il y a une assez forte condamnation de l'alcool tel que l'absinthe, etc. Mais le vin et la bière sont appelés des boissons hygiéniques et sont associés à la bonne santé. Et ça, sans limite, quoi. Et un ouvrier buvait en moyenne 2 litres de vin dans certaines régions et dans certains corps de métier. Et tout ça, ils vont les déconstruire, toutes ces normes, en disant... Le bon régime alimentaire, c'est pas celui du paysan, c'est-à-dire on va pas revenir à un état soi-disant harmonieux, c'est pas du tout celui du bourgeois, et c'est un régime qui est à inventer. Et du coup, ils vont se tourner vers la raison, puisque le credo des anarchistes individualistes, c'est de vivre sous la seule autorité, je les cite là, sous la seule autorité de l'expérience et du libre examen. Donc, en choisissant de questionner les préjugés alimentaires et de transformer leur alimentation, ils assouvissent un peu aussi une de leurs passions qui est la connaissance. C'est des autodidactes formidables, apprendre des choses, raisonner, se comporter de manière rationnelle. Et ils vont balayer, n'oublions pas que ce sont des enfants sortis de l'école à 11-12 ans, mais quand on lit leurs textes, on est quand même assez frappé du niveau de leurs connaissances et de la manière de les utiliser. Et ils vont balayer toute la lecture scientifique de leur temps. Notamment, ils s'intéressent à un biologiste connu à l'époque, puisqu'il a eu le prix Nobel en 1908, Elie Metnichkov, qui a parlé des toxines dans la viande, le docteur Carton, qui est un médecin assez célèbre, qui a publié un livre qui s'appelle « Les trois aliments meurtriers, la viande, le sucre et l'alcool ». Et ils vont s'intéresser aussi à l'anthropologie, à l'ethnologie, comment se nourrissaient les différents peuples. Regarder des études épidémiologiques, qui commencent à y en avoir entre les relations entre la fréquence de maladies inflammatoires et la consommation de viande, par exemple. Ils s'intéressent à tout ça, ils en font des articles, parce qu'il y a toute une presse anarchiste très foisonnante, et notamment une presse individualiste. Ils en font des brochures, ils font des conférences là-dessus. Hein. Et ils vont donc, pour eux, si vous voulez, en abandonnant les régimes alimentaires carnés, l'alcool, le tabac, le sucre, le pain blanc, ils font ce geste anarchiste par excellence de tourner le dos aux préjugés. Donc, un geste émancipateur et transgressif, parce qu'ils sont des transgresseurs de normes par excellence. Et ils se situent ainsi hors du troupeau. Hein. Ce sont des en dehors, justement. Et du coup, ça va aussi, bien sûr, l'alimentation n'est pas examinée indifféremment d'autres aspects de la vie. Et ça va très souvent de pair avec une certaine hygiène de vie, donc l'exercice physique, la propreté, qui n'est pas très répandue à cette époque, aussi faute de confort, mais ils disent c'est très important de se laver régulièrement, d'être nu quand on le peut. En ville, c'est pas très pratique, mais ils font beaucoup de sorties à la campagne. En ville, par exemple, à Paris, tous les dimanches, il y a des départs très tôt le matin. C'est le début quand même des chemins de fer qui vont en grande banlieue. La grande banlieue, à l'époque, c'est la forêt. Ils se promènent le moins vêtus possible hors des villes. Et puis, ils vont aussi, à la fois pour limiter leurs besoins, dépenser moins, viser à des formes d'autosuffisance en vivant en communauté. Et il va y avoir beaucoup de communautés, ils appellent ça des milieux libres, de vie et d'habitat, qui vont être créées. Alors, il y en a plusieurs autour de Paris, il y en a en Corse, il va y en avoir une, bien sûr, à Luynes, tout près d'ici. Donc il y a un certain nombre de communautés, ce sont des lieux mixtes, il y a des enfants parmi eux, parce que ce qui distingue d'ailleurs les anarchistes, beaucoup du mouvement socialiste de l'époque, c'est que pour eux tout est politique, hein, tout est politique, vraiment. Il n'y a pas un domaine ou un détail qui échappe à cette catégorie. Et ils ont complètement remis en cause les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, ils l'ont remis en cause théoriquement, dans la pratique, c'était pas toujours formidable, mais bon, c'était quand même un pas en avant. De manière plus réussie, ils ont remis en cause les rapports adulte-enfant, avec beaucoup de respect pour l'enfant, et des méthodes d'éducation qui reposent sur l'expérimentation, c'est-à-dire on ne va pas inculquer des choses à l'enfant sans lui faire réaliser un certain nombre d'expériences pour que par lui-même, il puisse déduire de ses observations, de ses expériences, certaines lois physiques. Et il y a un grand respect de l'enfant, et ça va s'étendre, évidemment, à l'animal. Leur motivation première pour le végétarisme, voire le véganisme, ça n'a pas été la volonté de ne pas faire souffrir l'animal, mais ça va arriver très vite. Parce que de toute manière, a priori, ils considéraient les animaux au moins, sinon comme leurs égaux, comme des êtres dotés de sensibilité, voire de raison, et qu'on ne pouvait pas, sur lesquels tout n'était pas permis, hein, sur lesquels on n'avait pas de licence. Alors, à Vaud, dans l'Aisne, il y aura deux personnalités importantes, Georges Buteau et Sophie Zajakowska, qui ont créé une communauté qui plus tard deviendra une colonie végétalienne à laquelle Louis Rimbaud va participer, d'ailleurs, et qui très vite s'est orienté vers le végétarisme, et avec le souci de ne pas sacrifier l'animal et de même pas l'exploiter sur les terres qu'il cultivait. Donc leur but, je les cite là encore, c'est donner aux hommes le moyen de se libérer de tous les esclavages par une pratique de vie assurant le succès des théories de la moindre servitude, de la moindre immoralité, de la moindre inhumanité, en donnant l'essor d'un nouvel idéal de libération humaine qui s'étendra à la bête qu'on ne sacrifiera ni n'attellera. Donc le choix de l'alimentation non carnée s'enracine dans le refus de la mise à mort de l'animal. Et il faut dire que les anarchistes, contrairement aux socialistes, c'est aussi une ligne de fracture, si vous voulez, entre les deux grandes familles du mouvement ouvrier, même si ce n'est pas la première qui saute aux yeux, c'est l'éloignement de la conception cartésienne de l'animal comme animal-machine, radicalement différent de l'humain, n'ayant ni conscience ni même sensibilité. Il y avait encore énormément de discours, et d'ailleurs qu'on durait jusqu'à très récemment, qui niaient la souffrance animale. On a d'ailleurs même longtemps nié la souffrance de l'enfant. C'est pour ça qu'il n'y avait même pas d'antalgique pour les petits-enfants. Il y avait des doses, l'aspect Jikmille, et si vous aviez un bébé souffrant, vous ne saviez pas comment faire, encore dans les années 70. Donc, il y avait une négation par rapport à ça. Alors, là, j'ai parlé de ce courant précis, mais il y a deux grands anarchistes qui, d'ailleurs, de grands théoriciens, qui les ont inspirés et qu'il faut ici nommer, c'est Élisée Reclus, le grand géographe, et puis Tolstoï, qui représente l'anarchisme chrétien. Anarchisme chrétien qui a beaucoup de zones d'interaction avec les individualistes parce qu'ils ont aussi créé des communautés. Et Élisée Reclus, dans la géographie universelle, dans sa grande géographie universelle, décrit à un moment les abattoirs de Chicago. Il les a visités en 1890. Et dans ces abattoirs, il y a une chaîne continue qui va de l'animal sur pied à la boîte de corned beef. C'est-à-dire qu'en quelques heures, le bœuf est débité, trié, la peau est écartée, etc. Il y a l'écarissage, il y a tout. Toutes les opérations sont opérées jusqu'à l'arrivée dans la boîte de corned beef. Et là, Reclus se dit qu'on a été encore plus loin que tout ce qui existait en termes d'élevage et de mise à mort, parce que là, non seulement l'animal est vu, il n'est même pas vu comme un vivant de rang inférieur, il n'est plus vu comme un vivant du tout, il est vu comme un matériau, il devient du matériau, c'est de la matière première en fait, qu'on transforme à volonté. Il n'est même pas reconnu comme être vivant. Et pour autant d'ailleurs, Reclus ne prétend pas que l'élevage traditionnel est plus vertueux. Il dit qu'il est aussi lié à l'horreur de la mort, du meurtre, et que le meurtre, de toute façon, élevage traditionnel ou industriel, est la condition première de l'alimentation carnée, et qu'il faut du coup lui tourner le dos. Et il y a d'autres textes où il évoque sa souffrance enfantine de voir devant la mise à mort du cochon dans les fermes, devant même les boucheries avec ses morceaux de viande sanguinolents. Et il dit qu'un jour, le meurtre, il espère que l'humanité à venir, mais lui, il la voit très proche, elle n'est toujours pas arrivée, aura absolument, ne comprendra même pas qu'on n'ait plus mangé de l'animal et que l'horreur que les hommes de sa génération ont du cannibalisme, les hommes l'éprouveront devant la consommation, la mise à mort et la consommation d'animal. Et bien sûr, donc, Tolstoï, il y a beaucoup de rapports aussi entre les deux conceptions, établit aussi un lien entre l'émancipation humaine et l'émancipation animale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'émancipation humaine sans émancipation animale, et que le végétarisme, pour Tolstoï, comme pour Reclus, c'est le premier pas vers une vie plus éthique, et que l'homme doit cesser de réprimer ce qu'il y a de plus estimable en lui, qui est la pitié pour l'être qui souffre, que les enfants éprouvent souvent, ou, dit-il, des simples d'esprit, enfin, en tout cas, on assimile au simple d'esprit l'homme ou la femme qui, bien qu'adulte, verse une larme devant devant l'animal qu'on va mettre à mort ou qu'on torture, et que cette pitié pour les créatures vivantes, voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur et qu'on réprime. Et c'est en apprenant aux enfants à réprimer ce sentiment, on les pervertit en quelque sorte, et que les abattoirs préparent les champs de bataille, etc. Donc il y a chez ces deux penseurs vraiment un continuum qui est fait entre l'exploitation et la domination des humains entre eux, la guerre et l'exploitation et la domination sur les animaux et la mise à mort des animaux. Voilà, on m'arrête là.
Donc, moi, je vais prendre le relais. Dan, donc, par rapport à cette colonie, communauté ou cité même, puisque Rimbaud a utilisé le terme de cité, donc végétalienne, qu'il a implantée à Alvin. Donc. Si vous cherchez des informations, on va dire, à caractère historique sur Louis Rimbaud, a priori, il n'y en a pas énormément. Il y a un article du dictionnaire, très grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Jean Métron, auquel Anne a participé d'ailleurs. On trouve quelques articles, un article de, on en parlait tout à l'heure avec Jérémy de La Rotative il y a quelques années sur Louis Rimbaud et la communauté végétalienne de Luynes. Et puis il faut aller chercher dans un certain nombre d'ouvrages, Les En Dehors par exemple, un travail qu'avait fait une étudiante d'Anne sur Céline Baudet, sur ces milieux libres, un autre ouvrage de Tony Legendre aussi, tout ça en général édité par les maisons d'édition libertaires. Donc comment nous on est tombé sur ce Louis Rimbaud en fait? Moi j'habite à Luynes depuis, ça va faire une quarantaine d'années, j'avais jamais entendu parler de Louis Rimbaud à Luynes. Il se trouve qu'on a deux camarades de l'association, et association qui n'existait pas alors, qui ont pour l'un acheté une petite maison sur un lieu dit de la commune de Luynes qui s'appelle Le Pin, qui était précisément la maison qu'avait acheté Rimbaud à la fin des années 20. Et donc en cherchant des informations sur l'histoire de cette maison en fait, il est petit à petit tombé sur un certain nombre de documents qui avaient très précisément la possession de cette maison et de ses terres par Louis Rimbaud. Et donc il a cherché de la documentation, il en a trouvé, il est allé aux archives, il est allé un petit peu partout pour essayer de trouver tout ça. Et un autre camarade de la Saute, donc, qui lui a eu en héritage un petit terrain qui jouxtait les terrains de cette communauté. Donc c'est une communauté qui est née au début des années 20, 1923. Et le but, enfin les objectifs correspondaient à peu près à tout ce que vient d'expliquer Anne par rapport au fonctionnement naturiste et anarchiste de Rimbaud et de sa famille. Alors c'est une communauté qui n'a jamais été très nombreuse. Aucune d'ailleurs des communautés des milieux libres n'ont eu des milliers d'adeptes et de résidents, on va dire. Hein. C'était quelques dizaines, au mieux une centaine, avec une rotation assez importante des personnes qui venaient, qui restaient un petit moment, qui repartaient. Alors Rimbaud, lui, il a beaucoup insisté, tu parlais tout à l'heure des lectures, hein, concernant notamment des lectures médicales, etc. Lui, Rimbaud était vraiment extrêmement sensible à toutes ces histoires. Il se prenait d'ailleurs quelque part pour une espèce de médecin parallèle, avec plus ou moins de réussite. Donc, des gens en sont venus dans cette communauté, des gens qui venaient de Tours, entre autres, mais pas que, pour essayer de profiter un petit peu de la nature, pour profiter du bon air, etc. Donc, on a effectivement quelques documents là-dessus qui nous ont permis d'aller un petit peu plus loin. Puis on s'est dit que c'était ça nous permettait aussi de sortir un petit peu de cette histoire assez normée qu'on a quand même dans la région. Hein. On est sur une région qui est très marquée par le Val-de-Loire et par les châteaux de la Loire, donc par la Renaissance. Mais c'est aussi une région qui a une histoire contemporaine et un département qui a une histoire contemporaine. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, quoi. On a donc créé cet asso. Et puis on a commencé à on a poursuivi plutôt les recherches sur l'histoire de Terre Libérée, puisque c'était le nom de cette communauté. Et en fait, on a trouvé beaucoup, beaucoup de choses. On a trouvé à la fois des articles de Rimbaud, parce qu'il écrivait beaucoup. Tu le rappelais tout à l'heure. Alors, il a une plume, des fois, qui est extrêmement, qui n'est pas toujours facile à lire, mais manifestement, il sait écrire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a beaucoup écrit, donc soit des petites publications qui étaient imprimées à l'huile, par exemple, les éditions Terre Libérée, soit dans des journaux, y compris des journaux locaux. Il venait par exemple faire des conférences tout près à la mairie de Tours sur, il appelait ça le naturarchisme, en faisant cette association de deux mots. Dans pas mal de périodiques aussi libertaires, tu as parlé des En Dehors après la guerre, après la Première Guerre mondiale, un périodique qui s'appelait le Néo-Naturien, dans lequel il a beaucoup participé. Donc on a pas mal de textes, on a pas mal d'articles, et puis le milieu anarchiste, un milieu qui à cette époque, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, était extrêmement surveillé par la police, bien sûr, très infiltré. Il y avait d'ailleurs parmi les militants des militants qui avaient été retournés, qui étaient un petit peu des agents doubles. Donc on a beaucoup de rapports de police aussi sur la vie de ces militants, sur leur déplacement. On a des rapports, par exemple, qui nous expliquent que Louis Rimbaud est allé à tel immeuble, qu'il en est sorti à telle heure, etc. Pour vous dire la finesse des observations. Donc on a finalement beaucoup d'archives, beaucoup de documents. Alors pourquoi Luynes ? Louis Rimbaud est né à Tours. Dans une famille extrêmement pauvre, le père alcoolique au dernier degré, une misère noire. Les frères Rimbaud, parce qu'ils étaient plusieurs, ils étaient 5 ou 6, ouais, sont allés à l'école, tu le rappelais tout à l'heure, mais jusqu'à la fin de l'obligation, en fait. Et donc, on a pas mal de traces de tous ces frères dans les rapports de police, parce qu'ils font tous partie de la mouvance anarchiste. Ensuite, la famille est allée en région parisienne. Et donc, quand Louis Rimbaud a voulu quitter un petit peu tout ce mouvement auquel il avait participé depuis son plus jeune âge, en fait, le mouvement ouvrier, le mouvement anarchiste syndicaliste, et qu'il est passé, on va dire, du côté de l'individualisme, il a eu le projet, après avoir vécu dans plusieurs milieux libres, Pavillon sous bois en région parisienne, par exemple, parlait de Bascon tout à l'heure, il a eu l'idée de créer une colonie libertaire, végétalienne, à Luynes. Donc il s'est mis à la recherche d'un terrain qu'il a pu trouver, quelques hectares, avec la maison dont on parlait tout à l'heure. Et donc, cette communauté a vécu, on va dire, entre 1923, date de sa fondation, et puis la mort de Rimbaud après la Deuxième Guerre mondiale, en gros une vingtaine d'années, quoi. Encore une fois, jamais sans une grande quantité de personnes qui accédaient, mais avec beaucoup de traces, on va dire, encore une fois, dans les publications. Et elle fait partie de toutes ces communautés un petit peu utopiques qui sont mises en place dès le milieu du 19e siècle. Et pour nous, c'était intéressant de voir qu'il y en avait une effectivement dans la région, et notamment à Luynes, et que ça permettait de faire une autre histoire et de faire de l'histoire autrement, en fait. Une histoire par en bas, on pourrait dire, hein, en dehors des châteaux, en dehors des seigneuries, en dehors, etc. Et donc cette association, elle fonctionne maintenant depuis 2 ans. Alors on est toujours assez attaché à la discipline historique. L'année dernière, on a fait venir Anne donc pour une conférence sur précisément les milieux libres et Terre Libérée. Cette année, on a fait venir un autre conférencier pour un grand mouvement de grève qui s'est déroulé à la fin de la Première Guerre mondiale en 1919 et auquel Louis Rimbaud a participé à l'époque. Donc on continue, nous, à faire ce travail-là. Et puis, sinon, on a essayé de voir au niveau local ce qu'on pouvait faire. Donc on a fait plusieurs choses. On a mis au point une randonnée qui permet d'aller dans quelques endroits, on va dire, symboliques de Terre Libérée, donc sur la commune de Luynes. On va éditer dans quelques temps, le flyer est prêt, vous pourrez le consulter sur notre stand là-bas, un petit topo guide de la rando avec des ardoises qui seront présentes sur tout le parcours et avec, en scannant le QR code de chaque ardoise, vous aurez un petit commentaire sur l'importance du lieu, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut y découvrir. Et puis on a mis aussi quelques éléments, quelques épisodes de la vie de Rimbaud que vous pouvez écouter uniquement avec le téléphone. On fait aussi, l'année dernière, on a fait une manifestation qu'on a appelée Champ Libre, précisément sur le terrain dont on parlait tout à l'heure. Donc avec une rando, un pique-nique partagé, il y avait des petits concerts de musiciens. On recommence cette opération le 22 septembre. Donc voilà, si ça vous dit, le 22 septembre, ce sera un dimanche, donc encore une fois une rando et puis un pique-nique partagé sur le terrain de ce qu'on appelle nous l'autre Terre Libérée, puisque c'est le nom de notre association. Et puis vous pouvez aller sur le site de l'autre Terre Libérée, vous trouverez pas mal de documents, pas mal d'informations qu'on a mis en ligne. On a mis des bibliographies, on a mis des documents photographiques, il n'y en a pas beaucoup de Rimbaud. On en a retrouvé une photo récemment là, qu'on a mis sur le site. Et puis voilà, pour essayer de faire vivre ce milieu libre de l'huile, mais du moins de le faire connaître. Et plus on creuse un petit peu dans la vie de Rimbaud et de Terre Libérée, plus on s'aperçoit qu'il y a vraiment des correspondances et des échos avec un certain nombre de problématiques actuelles dont tu as parlé tout à l'heure, Anne, bien sûr autour du végétalisme, autour de la cause animale et autour aussi de questions économiques qui sont qui tournent bien sûr autour de ça, de ces problèmes là mais c'est vraiment il y a une actualité en fait de Terre Libérée qui nous a assez frappé, qu'on soupçonnait pas forcément au début quand on a commencé à se lancer dans cette aventure là voilà, je vous remercie.
Est-ce qu'il y avait des questions éventuellement ?
C'est court. Bonjour, merci à tous les deux. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que vous savez ce qui a bien fonctionné dans cette communauté ou pas ? Et également, pourquoi ça s'est arrêté ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours un lien entre l'anarchisme et le véganisme ? Est-ce qu'il y a des mouvements qu'on retrouve actuellement qui rassemblent les deux ?
Je veux bien répondre pour la première. Tu réponds. Alors, ce qui a marché, on va dire l'autarcie a quand même fonctionné. Pour vous donner un exemple, quand la maison qu'ils ont achetée était, on va dire, tenait debout, mais bon. Vous verrez, il y a des cartes postales de l'époque d'ailleurs que vous pouvez voir sur le stand là-bas, mais qu'on a mis sur le site, qui montrent que bon, il y avait quand même énormément de travail, et ils ont fabriqué eux-mêmes leurs briques en fait pour consolider, voire reconstruire des parties de la maison. Donc c'était un élément qu'ils ont fait à l'intérieur de la communauté. Il y avait des cultures. Qu'on voit aussi un petit peu sur les cartes postales, même s'il y en avait un certain nombre qui étaient en dehors. Donc à ce niveau-là, ils arrivaient à peu près à, on va dire, à se nourrir et puis à vivre un petit peu en circuit fermé. Alors probablement qu'il y avait quand même des manques, notamment pour les enfants qui étaient là. Il y avait en général 2-3 enfants qui vivaient là-haut. Et le fait de ne pas consommer de lait, par exemple, ça a probablement pu poser un problème pour les petits. Mais sinon, globalement, on va dire, leur cadre de vie là-haut, donc sur le terrain du pain, et leur fonctionnement en autonomie, globalement, a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le projet de Rimbaud, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les statuts de Terre Libérée qu'il avait écrits, c'est des statuts, mais on croirait que c'est un expert comptable qui a écrit les statuts, quoi. Ça fait plusieurs pages, c'est d'une précision bureaucratique redoutable. Alors, il s'attendait à un système de coopération, de cotisation, enfin bon, etc. Il s'attendait très probablement à une quantité de, on va dire, d'adhérents, entre guillemets, beaucoup plus importante, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, ça c'était un petit peu le lot de toutes ces communautés. Donc, bon, on va dire que probablement pour lui, le projet n'a pas forcément abouti jusqu'à son terme. Alors après ça, une dizaine, comment dire, la communauté, le Terre Libérée naît en 1923. En 1932, Rimbaud a un accident sur le chantier de la maison précisément. Il devient assez rapidement paralysé des jambes. Donc ça aussi, ça va mettre un petit coup parce que quand même, tout reposait sur lui, quoi, globalement. Il y avait sa femme Clémence qui était là, mais c'est quand même lui qui était le pilier, on va dire, de ces communautés, comme à Bascon, comme... Il y a une volonté de, comment dire, d'un collectif dans l'ensemble de ces milieux libres, ça c'est évident, mais dans les faits, ça repose souvent sur une ou deux personnes qui sont qui font l'essentiel du boulot, qui sont là en permanence, etc. Donc c'était un peu comme ça à Terre Libérée. C'est peut-être un demi-échec en fait par rapport à ça, le fait qu'il ait été paralysé à un moment donné et que ça a quand même bloqué un certain nombre de choses. Et puis sinon, ça va s'arrêter avec la mort de Rimbaud en fait en 49. Donc voilà, la communauté n'existe plus. On sait qu'il y a peut-être des gens qui sont retournés par la suite, peut-être pour aujourd'hui on dirait squatter, mais on n'a même pas forcément d'éléments très propres. Quoi. On va dire que la période cruciale, c'est en gros une dizaine d'années, quoi. Début des années 20, début des années 30. Quoi. Là, on sait que ça fonctionne, qu'il y a beaucoup d'interactions avec les gens qui sont à Tours notamment. Je parlais des conférences à la mairie. Il y a peu d'interactions avec les habitants de Luynes. C'est même plutôt, on va dire, un peu conflictuel. Qu'est-ce que c'est que cette... En plus, les gens savaient qu'il avait eu des soucis par rapport à l'affaire de la bande à Bono. Donc il a cette étiquette-là qui est sur lui. Vous imaginez Bono qui arrive dans une cambrousse comme ça. C'est, bon. Donc il y avait une forme de rejet, de méfiance. Enfin bon, voilà, c'était... Même s'il y a eu des relations avec quelques personnes, mais c'était vraiment ils vivaient vraiment tout seuls là-haut sur leur terrain, quoi.
Alors je vais répondre à la deuxième partie, mais je voulais dire concernant ce que tu as dit, ce truc un peu tatillon sur les statues, c'est justement parce qu'il arrive en 23, il y a déjà eu beaucoup d'expériences communautaires et qui, alors je dirais pas qu'elles ont échoué, parce que le but n'était pas qu'elles durent 100 ans non plus, mais qui se sont un petit peu effondrées, parce que justement il n'y avait aucune règle à la base. Et l'idée c'était que les choses allaient se faire d'elles-mêmes, et que si on allait travailler toute la journée ou passer sa journée dans les arbres à regarder, à écouter les oiseaux, on devait manger de la même manière. En vérité, il y en a qui travaillaient beaucoup plus que d'autres et à un moment, personne ne supporte ça. Donc en plus, ceux qui travaillaient beaucoup avaient le pouvoir. Hein. Et c'est ça qui a provoqué l'éclatement de la plupart des communautés, plus le tourisme du dimanche, c'est-à-dire ces fameux visiteurs. Il y en a beaucoup à Luynes, mais il y en a eu dans toutes les communautés, notamment dans l'Aisne et dans les Ardennes, des gens qui... se disaient, tiens, il fait beau aujourd'hui, on va aller passer la journée, et qui mangeaient, bien sûr, mais qui ne travaillaient pas. Alors que l'équilibre autosuffisant, c'est toujours un petit peu précaire. Voilà, ce genre de choses. Alors, le véganisme aujourd'hui, oui, il est très fort dans les milieux anarchistes, et je dirais beaucoup plus fort qu'il ne l'était dans les années 1970-1980. C'est revenu en force au début des années 2000. Et en tout cas, dans les milieux qui se disent anarchistes, que nous, vieux anarchistes, on ne trouve pas forcément anarchistes, mais tout le monde peut prétendre à cette appellation après tout. Et chez les jeunes, oui, c'est venu en force. Il y a automatiquement quand même cet ajustement qui se fait. Si l'exploitation est mauvaise entre humains, elle est aussi mauvaise entre humains et animal. Et puis l'idée de l'écologie, de la préservation de l'environnement, etc. D'un point de vue écologique, c'est beaucoup moins aberrant de manger directement le végétal que de, que de passer par l'animal.
Juste pour préciser, au niveau, il y a peut-être un élément qui peut permettre de vérifier tout ça, c'est qu'au niveau de l'édition, il y a beaucoup de publications, de livres qui ont été édités récemment, depuis quelques années, et qui rappellent ce lien précisément entre l'anarchisme, la cause animale, etc. Des textes d'Élisée Reclus, je parlais d'Élisée Reclus tout à l'heure, quelqu'un qui aurait pu être là, nous disait Jérémy Romeo Bondon, qui travaille sur les luttes sociales et la cause animale. Donc c'est significatif et on retrouve des textes très 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 anciens. Reclus, c'est des textes des années 1880 par exemple.
Oui, mais ils sont quand même 1890, alors qu'il n'a jamais été oublié parce que c'était par ailleurs un grand géographe. Ouais. Mais disons qu'on se revendiquait plus de Bakounine que de Reclus. Et aujourd'hui, ce serait l'inverse.
Oui.
Alors, je voulais dire aussi, quand même, parce que c'est important, il faut rendre justice au courant syndicaliste révolutionnaire ou anarcho-syndicaliste, c'est qu'eux aussi ont quand même, en tout cas en Espagne, pas mal porté la cause végétarienne. Il n'y a pas des lignes, des digues étanches entre chaque courant. Et Rimbaud a été syndicaliste. Et en Espagne, il y avait énormément de syndicalistes espagnols de la CNT qui aussi étaient végétariens, naturistes, etc. Ainsi qu'en Amérique latine.
Alors, il y a une question de la régie. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'à votre avis, une communauté ou, disons, un groupe humain qui fonctionne avec un leader charismo a vocation à s'autodissoudre ? Est-ce que ça va forcément rater à un moment s'il y a quelqu'un qui a ce rôle-là ?
Oui, ou alors ça se transforme en secte. Mais bien sûr, d'ailleurs, il y a un homme très fortuné, Henri, qui a construit peut-être la communauté qui a eu la plus longue durée de vie et sur lequel on a aussi le plus de renseignements. Était un homme très charismatique. Lui, il avait acquis le terrain, hein, en plus, parce qu'il y a eu des embrouilles au niveau de la propriété, notamment dans l'Aisne. C'est des paysans qui s'étaient joints et qui avaient donné leurs terres. Puis dès que ça n'allait plus, ils disaient « on reprend notre vache, on en reprend notre pré, etc. » Donc, Fortuné Henri avait acheté. C'est lui qui travaillait le plus. C'est lui qui avait la grande force charismatique. Il est vite devenu une sorte de chef et il n'a pas voulu l'être. Les autres l'ont foutu dehors, de toute façon. Il a fait autre chose. Et après, la communauté n'a pas tenu. Mais oui, non, sinon, ça devient autre chose. C'est une déviance par rapport au projet initial.
Sur la communauté de Fortuné Henri dont tu parles, il y a une très belle bande dessinée qui s'appelle L'Essai. Si la question vous intéresse, je crois que c'est chez Delcourt, je ne suis pas sûr, mais c'était le nom d'ailleurs de cette... colonie qui s'appelait L'Essai. Ce qui est important aussi, on en parlait tout à l'heure en aparté, c'est les liens familiaux de génération entre l'ensemble de ces fondateurs de communautés. Parler de Fortuné Henri, c'est le fils d'un général de la commune qui sera fusillé d'ailleurs, qui sera exécuté.
Non, il s'est exilé en Espagne.
Après. Et Fortuné Henri aura un frère, Émile Henri, qui sera connu pour avoir posé des bombes, notamment au Palais Bourbon, je crois. Donc il y a des liens familiaux comme ça. Rimbaud, c'est les cinq frères. Il y a un frère qui se retrouve à fréquenter le milieu anarchiste à Paris. Et les quatre autres frères vont y passer, entre guillemets, vont se retrouver dans ce milieu-là. Donc il y a les frères Reclus, par exemple, qui n'ont rien fondé, mais bon, qui sont... Il y a toute une tradition comme ça. Après, ouais, moi,
frères et
sœurs, tout à fait. Oui, bien sûr.
Ouais. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas ces communautés, ce n'est pas des phalanstères. C'est pas des projets d'utopie destinés à durer sur plusieurs générations. C'est pour ça qu'ils voient pas comme un échec le fait de repartir sur autre chose. Et eux-mêmes, à Saint-Germain, il y avait une communauté qui avait été fondée par plusieurs personnes, dont une femme extraordinaire, s'appelle Émilie Lamode. Et elle, à un moment, elle a dit, donc finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie nomade. Et elle est partie en roulotte. Et on pouvait vraiment passer d'un mode de vie à un autre. Voilà. On ne rentrait pas en communauté comme on rentre dans les ordres, quoi. On voulait montrer qu'on pouvait fonctionner de manière commune. C'est pour ça que ça s'appelle l'essai. En Belgique, il y avait l'expérience à Stokkel, qui était une communauté très intéressante aussi, fondée par un mineur. Et puis, c'était pas forcément toujours les mêmes membres. Voilà, on partait, on revenait, on s'arrêtait, mais c'était pas vu comme un échec. Voilà.
Alors, pour juste poursuivre sur ces communautés-là, il y a un instituteur de Tours qui s'appelait Victor Coissac, qui aussi après la Première Guerre mondiale a fondé une communauté dans le Gers. Alors c'est pareil, il avait aussi tiré les leçons probablement de d'autres communautés précédentes avec des statuts extrêmement structurés. Il avait effectivement acheté le terrain, il avait acheté la maison. Ça a duré un certain nombre d'années aussi. On n'a pas beaucoup de traces non plus de ce personnage intéressant, Victor Coissac, qui était instituteur à Tours. Alors peut-être parce qu'il a fondé sa communauté en dehors effectivement du département. Mais c'est intéressant. Il y a un livre qui a été fait par une historienne qui s'appelait Diana Richet sur cette communauté fondée par Coissac.
Est-ce qu'il y a encore... on a le temps pour une question.
Bon bah, je pose alors. Parce que vous évoquiez la présence de frères ou de sœurs dans ces communautés. Je voudrais savoir s'il y avait quelque chose qui ressemblait à, disons, une dynastie communautaire. Est-ce qu'il y avait des espèces de choses comme ça, de fonctionnement un peu clanique, en fait, entre communautés. S'il y a le frère, l'oncle, la sœur, la tante, est-ce que ça fait des fonctionnements comme ça ?
En fait... Mais on les retrouve dans les communautés ou dans les syndicats. Ou en fait, quand faut voir que les gens bougeaient beaucoup, contrairement à la représentation qu'on se fait de la société de cette époque, et émigraient soit vers la ville la plus proche, soit vers Paris. Moi, j'ai surtout travaillé sur les milieux parisiens. Par exemple, je pourrais vous citer les frères et sœurs Morand. Jeanne Morand, c'est une jeune fille qui vient se placer bonne à Paris à 19 ans. On peut imaginer qu'elle vient d'un milieu quand même ouvrier un peu politisé, bon, mais elle rencontre la communauté de Montmartre, indivisible de Montmartre autour de Libertad, Anna Mahé. Ça lui plaît beaucoup. Quelques années après, les petites sœurs viennent à Paris, bah, automatiquement elles rejoignent la grande sœur. Elle se lie avec des hommes de ce milieu et elles deviennent, elles aussi, des militants de ce milieu. Puis dans ce cas, il y a les deux petits frères. Enfin, toute la famille est aspirée. Voilà. Et je pense que ça s'est passé comme ça pour beaucoup. Les sœurs Mahé, qui étaient des Bretonnes, de Bourgneuf-en-Retz, la grande sœur part, qui n'a pas fait d'études, elle, qui est couturière, part à Paris, rencontre Libertad, mais elle était déjà anarchiste de conviction en quittant Nantes. Et puis sa petite sœur qui est institutrice la rejoint, démissionne de l'éducation nationale, ce qui était pour une enfant de pauvre, c'était quand même quelque chose de terrible de faire ça. Surtout qu'elle était un aimant extrêmement brillant. On lui avait donné une direction d'école à l'âge de 18 ans. Elle envoie tout balader. Alors elles ont le même amant, Libertad, les deux sœurs, elles ont chacun un enfant de lui en même temps. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup une remise en cause de l'amour, de la jalousie, de l'appropriation d'autrui et des fonctionnements polyamoureux. Ça, ils le font beaucoup dans les communautés. Et c'est parfois aussi des ferments de discorde. Faut pas, parce que des ferments de discorde, au sens où on criminalise la jalousie, en disant c'est horrible, c'est une appropriation de l'être aimé, en même temps on est jaloux, mais du coup on souffre d'être jaloux parce qu'on a honte de l'être. Et ça crée des tensions douloureuses, disons, et le départ de certains, voilà, voire des drames.
Après, on a pas trop... Enfin, moi, je ne connais pas d'exemple, peut-être tu connais, Anne, d'enfants, par exemple, qui auraient vécu petits dans les communautés et qui auraient, à leur tour, à l'âge adulte ou tenter de refonder quelque chose de cet ordre-là.
Eh bien, merci beaucoup Anne Stenner et merci Thierry Flamand pour ces présentations de qualité très intéressantes. On vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller découvrir l'exposition consacrée à Louis Rimbaud et à Terre libérée qui se trouve à l'entrée du boulevard Orteloup. Merci beaucoup.
Merci, au revoir à tous.
Toca, 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 toca.